given you there all some stagger and fall. After all, it's not easy. Banging your heart against some mad bugger's wall.
Radio Canut vous présente dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre, Les délires de la sublimation. Production, mise en scène, Junier Jean-Pierre, enregistrement CVRP. Malheureusement, le lendemain matin, seul dans sa chambre, ce n'est plus pareil. La joie est partie et la tristesse revenue. Il se dit que dans quelques mois, il sera marié. Une semaine plus tard, Jules reçoit l'invitation à dîner de Sylvain et Patricia. Cela le touche, mais il se demande comment il va se comporter avec la jeune fille. Je n'ai rien à lui dire. Il se présente comme prévu chez eux à 20h, chez la mère de Sylvain. Ils sont partis tous les trois. Sylvain a commandé un repas dans un de ses grands restaurants avec orchestre et service stylé. La salle à manger est immense. Il y a des chandelles aux tables recouvertes de nappes blanches. Le style est Napoléon III. Un serveur les mène à une table. Jules s'assoit en face du couple. Jules les trouve très beaux. Lui a son costume noir, elle a sa robe crevette. Jules est ému et est ébloui par tout cela. C'est beaucoup trop. Elle lui dit, non, c'est normal, vous êtes le meilleur ami de mon fiancé. Jules se dit, elle parle déjà en son nom. Le repas se passe en se racontant des banalités. Et Sylvain, fier de voir comme ami Jules, il ne cesse de le mettre sur un piédestal. Il dit à sa fiancée, tu sais que c'est un très bon écrivain. Elle sourit et dit à Jules, lorsque j'aurai plus de temps, je vous lire un de vos livres. Il paraît qu'ils sont merveilleux. Ils sont merveilleusement bien écrits. Ils sont appréciés. Je lui dis, il ne faut pas exagérer. J'ai juste un petit succès d'estime. D'ailleurs, j'ai beaucoup de difficultés à les faire publier. Patricia lui dit, c'est parce que les éditeurs ne marchent qu'à la mode. En ce moment, c'est la mode aux petits romans parisiens de mort légère ou à de gros feuilletons à énigmes. Ils ont continué à parler. Tout à coup, Jules voit de petits riens qui font que deux personnes sont des couples, des regards sans se parler, des caresses futiles, des rires pour rien, la façon qu'ils ont de se dévorer des yeux, la façon qu'ils ont de s'isoler de leur invité pour être entre eux, malgré l'intrus. Jules se dit qu'il verrait tout, qu'il sera toujours un intrus avec eux. Le troisième, celui qui n'a pas eu de chance, parce que pas marié comme eux, qui ne connaît pas le bonheur d'être à deux, celui que l'on invite avec gentillesse et qui se sentira toujours gêné d'être toujours seul avec eux, qui eux font un en deux. Ces gestes, ces intimités auxquelles il n'a pas accès font mal à Jules. Pendant une seconde, il se demande pourquoi il est là. Et que Sylvain fait déjà plus partie. Il est d'un autre monde où il n'a plus accès. Il en souffre affreusement et cette souffrance l'empêche de parler et son silence le gêne et lui fait mal car il se dit qu'une gêne comme celle-là avec Sylvain, c'est intolérable. Il les voit se regarder. Il a l'impression qu'ils se disent qu'il aimerait mieux être seul, qu'ils ont que leur béat a assez duré. Eux aussi s'ennuient à cause de lui. Instinctivement, cette tristesse de Sylvain, Jules étouffe et il a chaud. Il est pris d'une tristesse qui lui serre la gorge. Il sent tout tourner. Sylvain qui lui dit « Ça ne va pas ?» Il ne peut répondre et se laisse aller. Sylvain court, va vers lui, lui soulève, lui tape les tempes et lui sert un verre de vin. Sylvain lui demande « Ça va mieux ?»« Oui ?» Je suis navré et chacun se remet à sa place. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé parce que Christian lui dit, moi je le sais, c'est l'émotion. Ils étaient émus parce que votre ami va vous laisser. Vous avez peur qu'il vous laisse. Mais c'est pas parce qu'il se marie qu'il ne vous verra pas. Je suis pas comme une de ces. Je suis pas une de ces femmes qui met la bride à son mari. Vous verrez quand vous le désirez, comme vous voudrez. Et le repas se termine calmement. Il se reprend. Puis il se quitte. Patricia a embrassé Jules. Sylvain l'a pris dans ses bras. Jules. Voit très peu ses amis, car ils ont beaucoup à faire. C'est une période triste pour lui, car il apprend leur mariage. Il reste solitaire, ne parle à personne, n'écrit pas. Enfin, le jour du mariage approche. Grande satisfaction chez le beau Mandin. Grande agitation aussi. Jules doit se faire un costume pour la cérémonie. Quelle corvée! Les essayages chez le tailleur. Puis, il doit acheter le cadeau. Là aussi, quoi acheter? Il a l'impression qu'ils ont besoin de rien. Il décide de leur acheter un tableau qu'il a trouvé chez un marchand de vieux tableaux anciens de qualité. Une vierge à l'enfant de toute beauté du Moyen-Âge, d'un maître des Flandres. Il est très beau, coûte une petite fortune et le peintre est rare et réputé. Ce sera la preuve d'amour pour lui. Le jour du mariage arrive. Tous les Beaumardins sont invités et se lèvent à 6 heures pour se préparer. La cérémonie civile s'est faite d'une façon très émouvante avec les deux témoins et les parents. Jules s'est bien tenu. Il a vu que Sylvain était très ému. Cela l'a fait pleurer en cachette. Patricia aussi s'est très bien tenue, digne et heureuse. Jules essaie de ne pas penser pour ne pas avoir trop mal. Mais malgré lui, c'est le mariage religieux. Aujourd'hui, c'est le mariage religieux. Pour Jules, il a l'impression d'assister à sa mort. Durant la cérémonie, il reste comme paralysé. Pour présenter les félicitations aux invités, il est comme pétrifié. Il ne peut ouvrir la bouche. Ensuite, il y a cet interminable repas. Il y est assis en face des jeunes mariés. Et ne cesse de regarder Sylvain, qui semble au comble du bonheur. Sylvain aussi le regarde, lui lance des clins d'œil et lui dit: t'en fais pas, toi aussi. Tu te marieras. Jules sourit. Après le repas, il y aura le bal, qui commencera à 21h. Il faut le temps aux gens de se changer. Jules est allé s'allonger à sa chambre pour se reposer. Surtout ne pas penser, ne pas penser. Car s'il pense, c'est fini pour lui. Il a assisté à un mariage et c'est tout. Le bal va se faire chez la mère de Sylvain et il n'ira qu'à 22h. Il est allé. Pauline le voit et lui demande: alors ça va? Pas trop triste qu'il se marie? Il lui hausse ses épaules et lui dit: je te comprends, Sylvain est un très joli garçon, c'est normal. Mais que veux-tu? La vie veut que les jolis garçons soient pris par les filles. Elle l'embrasse sur la joue et le quitte. Sylvain et Patricia viennent vers lui. Sylvain lui dit: nous partons. Nous sommes venus te dire au revoir. Jules est très triste. Il leur demande: vous allez où? Ma mère nous offre un voyage en Grèce. Jules lui dit: c'est beau. Vous avez de la chance. Patricia l'embrasse et lui dit: nous pensons à toi. Nous t'écrirons. Merci, je vous souhaite d'être très heureux et de faire un beau voyage. Sylvain l'embrasse et lui dit « Merci, moi aussi je penserai à toi. Allez, il nous faut partir. » Et il s'éloigne. Un quart d'heure plus tard, Jules s'en retourne chez lui, démoralisé. Il passe plusieurs jours tellement démoralisé qu'il reste au lit. Sa mère est allée le voir.
Qu'as-tu ?
Rien. Je suis juste un peu fatigué.
Tu maigris depuis quelque temps. Tu ne manges plus. Tu es malade ou ça ne va pas ?
Non, j'ai besoin de repos et de solitude.
Tu ne veux pas que je fasse venir le docteur ?
Non, merci, pas la peine. Ça va passer.
Bien, je te laisse. Mais si tu ne vas pas mieux, appelle-moi.
Je te le promets. Il ne veut pas penser. Il veut dormir et ne pas rêver. Malheureusement, à cause de la famille, 3 jours plus tard, il est obligé de se lever. Donc, il se lève, mais ne fait rien. Reste assis sur une chaise. Il a beau essayer de ne pas penser, l'image de Sylvain lui vient constamment en mémoire. Cela lui fait mal de voir ce beau petit visage. Une semaine après leur départ, il reçoit de leurs nouvelles, lettres gentilles. L'on sent qu'ils sont tous deux à leur joie, mais pensent à lui. Le voyage semble bien se passer. Jules voit que Patricia lui a écrit en bas de lettres. Il trouve cela gentil. Des jours passent. Il reçoit de temps en temps du courrier. Petit à petit, Jules remonte la pente et essaye d'écrire. Un soir, vient le voir sa sœur. Il est déjà couché. Elle a pitié de lui et veut lui faire oublier son chagrin. En tout cas, pendant quelque temps. Alors, elle s'allonge près de lui. Lui fait des caresses et des baisers. Lui, au bout d'un moment, lui en fait aussi. Et arrive ce qui doit arriver. Mais, c'est la dernière fois qu'il le fait. Après cela, ils vont rester très amis. Jules n'a pas oublié Sylvain, mais il est plus détendu. Un après-midi, Charles-André, après son travail, s'est enfermé dans sa chambre pour se reposer un peu. On a frappé à la porte. Entrez. C'est le domestique qui lui dit « Monsieur, il y a Madame Clapson qui désire vous voir. » Elle n'a pas dit ce qu'elle voulait ?«
Non, monsieur. »«
Bien, je descends. Mettez-la dans le petit salon. »«
Bien, monsieur. »
Et le domestique se retire. Charles-André se demande ce que lui veut Hula. Si elle me demande l'argent, j'en ai pas. La chose est classée.
Il se lève. Range ses vêtements, et sort de la chambre. Pourvu que père ne sache rien sur cette histoire, il va au petit salon. Oui, donc pourvu que père ne sache rien de cette histoire.
Il la voit, Ulla, dans une magnifique robe vert pâle. Elle tient à la main un petit garçon d'à peu près 2 ans, bon, blond, bouclé, un visage d'ange, habillé en marin. Charles-André va vers eux. Bonjour Ulla. Bonjour Charles-André. Il lui demande, c'est ton enfant? Oui. Il est joli. Merci. Asseyons-nous, je vous en prie.
Ulla va s'asseoir sur un canapé avec son petit garçon. Et Charles-André dans un fauteuil en face d'eux.
Il lui demande, comment vas-tu? Je vais très bien, je te remercie. Tu es venu me voir pour quelque chose? Oui, non, je suis venu te dire, c'est que je repartais retrouver mon mari en Angleterre. Tu pars définitivement? On ne sait jamais. Je ne sais pas ce que je vais trouver là-bas. Tu sais, avec un enfant, ce ne sera pas facile de s'expliquer. Charles-André lui demande, ton mari ne sait pas? Non, pas vraiment, en fait, je lui ai dit, mais il ne l'a jamais vu. Il m'a dit qu'il me pardonnait et acceptait de le prendre. Mais on ne sait jamais, et puis sa famille risque de le faire changer d'avis. Si je comprends bien, l'enfant est d'un autre. Elle lui dit, le petit semble avoir soif, il n'aurait pas quelque chose. Charles-André lui demande, un jus d'orange? Oui, cela sera l'affaire. Charles-André sonne un domestique et il demande, il a quel âge? 2 ans déjà. Entrez. C'est le domestique. Apportez du jus d'orange et du café. Bien, monsieur. Charles-André lui demande, comment se comporte le père du petit? Elle lui dit, il ne sait pas, j'ai pas osé le lui dire, mais maintenant que je quitte la France, j'ai envie de lui dire. Bien entendu, c'est juste pour qu'il le sache et voie son enfant. Il est le père tout de même. Mais je ne lui demanderai rien, parce que mon mari a décidé de lui donner son nom. En fait, je l'espère, parce qu'on ne sait jamais. Tant qu'il ne l'a pas vu, je ne peux pas savoir ce qu'il va décider. Cela va peut-être éveiller sa jalousie en voyant le fruit de l'adultère. Que feras-tu? Et soupir, elle lui dit, je quitterai mon mari et irai vivre quelque part avec le petit. L'on a frappé à la porte. Entrez. C'est le domestique qui vient avec le plateau. Il va le déposer sur la table basse en face d'eux. Merci, je servirai. Et le domestique s'en retourne.
Charles-André a préparé un verre de jus d'orange qu'il tend à Ulla qui le donne au petit. Puis, il prépare le café. Sucre, lait, du lait, merci.
Une fois que le petit est fini de boire, Charles-André demande, il en veut encore? Elle lui dit, non, merci. et ils boivent leur café. Charles-André lui demande « Tu es très attaché à ton petit ?»«
Oui, beaucoup. Surtout que j'ai aimé son père, mais lui ne s'est rendu compte de rien. »
Charles-André lui dit « C'est pas un homme très sérieux ?»
Elle lui dit « Il était insouciant et jeune. Comment s'appelle le petit ?»«
Williams. Joli nom, merci. »
« Comment crois-tu que le père va apprendre cette nouvelle ?»«
Je ne sais pas. »
Elle regarde sa montre et lui dit
« Il est temps que je parte. »«
Déjà ?»«
Oui, je prends le train tout de suite. »
Ils se lèvent tous deux.
Il la raccompagne jusqu'à la sortie.
Il lui dit « Je te remercie de m'avoir fait cette visite avant ton départ. Bon voyage à tous deux. »
Il est vraiment délicieux, ce petit enfant.
Merci, il te plaît.
Et elle lui dit d'un coup, parce que tu es ma dernière visite.
Il lui dit, tu ne vas pas voir son père?
Elle lui sourit et lui dit, voilà, c'est fait, mais...
Elle lui met la main sur sa bouche, puis s'en va.
Il lui court après.
Hula, je suis le père.
Elle ne se retourne pas et elle est entrée dans le fiacre qui va la mener à la gare.
Charles-André entre chez lui, abasourdi.
J'ai un enfant qui a 2 ans, un enfant, Williams.
Et, tout à coup, il se dit, je ne le reverrai plus.
Un autre va se faire appeler papa.
Mon Dieu, Hula,
je veux le revoir,
c'est mon fils.
Les jours passent. Un matin, Jules reçoit une lettre de Sylvain qui lui dit qu'il revient à Lyon.
Jules est heureux, mais en même temps, il est inquiet. Comment va-t-il le retrouver? Ne fera-t-il pas trop homme marié? Va-t-il le revoir seul?
Une semaine plus tard, Sylvain lui envoie un mot pour lui dire de venir le voir. Il y va.
Le couple habite chez la mère de Sylvain. Sylvain le reçoit seul. Ils sont tous deux dans le salon, l'un à côté de l'autre.
Une fois qu'ils se sont embrassés et assis, Jules demande « Le voyage s'est bien passé ?»«
Oui, ça a été merveilleux. Patricia est une femme merveilleuse. Nous avons vécu des moments inoubliables. »«
J'en suis heureux pour toi, » Sylvain lui dit.
« Mais l'on ne t'a pas oublié, la preuve, nos lettres. »«
Oui, je vous remercie, » Sylvain lui dit.
« Je suis sûr que toi aussi, plus tard, tu vas rencontrer une personne qui t'aimera et que vous allez être heureux. »
Jules sourit et lui dit, « Moi, tu sais, le bonheur. »
Sylvain lui dit, « Moi aussi j'étais comme toi. » « Et puis tu vois ?» Jules lui demande, « Que vas-tu faire maintenant ?»
Sylvain lui dit, « J'avais reçu une lettre des parents de Patricia. Ils veulent me connaître et disent que nous pourrions nous installer là-bas.
L'Australie est un pays d'aventuriers.
Alors nous avons décidé d'y aller. »
Jules est effondré.
« Alors, je ne te reverrai plus ?»
Sylvain lui dit, « Nous écrirons souvent et puis je viendrai voir ma mère et tu verras.
Mais toi, tu n'as qu'à partir, toi aussi.
Qu'est-ce qui t'en empêche ? »
Jules se dit, pourquoi pas ?
Mais il se voit dans un pays à moitié sauvage.
Seul, avec un Sylvain marié, sera le troisième, celui qu'il faut inviter. Non, c'est pas possible. Et puis Sylvain va créer une famille, des enfants. Il aura aussi sa belle famille. Que va-t-il faire, lui, Jules, au milieu de tout ça? Non, c'est impossible. Il dit à son ami, je te remercie, mais je ne peux pas aller là-bas. Toi, tu vas avec ta femme créer un foyer. Ce n'est pas pareil. Moi, je serai seul entre vous. Non, c'est pas possible. Sylvain lui dit, comme tu voudras, mais tu vas beaucoup me manquer. Je lui dis, et à moi, vous partez quand? Nous partons, nous ne défaisons pas nos bagages dans 3 jours. Je lui dis déjà, et oui, c'est à cause du bateau. Jules est effondré. Mais ne le montre pas. Il accompagne Sylvain et sa femme jusqu'à la gare. Avant qu'ils ne partent, il regarde bien une dernière fois son joli visage, puis se sent embrassé. Eh? Le train part. Jules se dit qu'il ne le verra plus jamais. Et dire que je n'ai même pas un portrait de lui. Il se sent seul. Seul. Une belle page de sa vie vient de se terminer. Il essaye de se raisonner. De toute façon, je l'aurais perdu. Il était marié. Une fois marié, c'est fini. Pauvre Sylvain, que va-t-il trouver là-bas? Pense tous les jours à la nuit, et la nuit rêve à son beau visage. Un jour, il reçoit une lettre. Sylvain est enchanté du pays, tout lui plaît, et la belle famille est gentille avec lui. Il a trouvé un petit travail chez un notaire. Les jours passent. Et puis, un matin, Jules se dit que la vie doit continuer. Bien sûr, il gardera dans son corps Sylvain. Il aimera toujours, toujours, toujours. Il regarde autour de lui les jeunes gens de son âge qui se marient. Travail, famille et moi. Vais-je rester en marge, être un être à part, un vieux garçon solitaire que tout le monde trouvera maniaque et égoïste? Parce qu'un homme qui vit seul aux yeux de la société est forcément égoïste. Quel avenir? Je me vois seul en robe de chambre et charentaise, me se voir chauffer dans une vieille casserole des pâtes collées et fades. Non, non, je suis jeune et je ne veux pas vivre comme ça. C'est pas parce que je n'ai pas les mêmes goûts que les autres que je dois vivre de cette façon. Et puis, j'ai besoin aussi d'indépendance, d'être chez moi. Le fils à papa, c'est passé. Je suis en âge d'être le papa du fils. Je ne suis pas pressé de l'être, mais enfin, je peux l'être et dois l'être. Voici à quoi il pense. Ses pensées sont surtout pour se donner du courage et avoir des projets d'avenir après la fin avec Sylvain. Vous me direz, puisqu'il n'aime pas les femmes, pourquoi se voit-il, voit-il son avenir avec une femme? Parce que la société est ainsi faite que même un homosexuel ne peut voir son avenir qu'en vivant comme les autres. Faire partie de la société, c'est être comme tout le monde. Autrement, l'on ne fait pas partie de cette société. Et un jeune homme qui a dépassé 20 ans ne rêve que d'être comme tout le monde pour se faire une place au soleil. Et Jules est comme tous les jeunes de son âge. Il souffre de ne pas avoir les mêmes goûts que ses condisciples, d'être obligé de se cacher. Il aimerait être comme tout le monde. Il se dit que sa vie serait beaucoup plus simple, que cela ne choque personne lorsqu'un jeune raconte ses fredaines avec une femme, et même avec des détails piquants. Il en est fier, et même sa famille aussi. Cela prouve qu'il est comme tout le monde. Tandis que lui, il ne le peut pas. S'il le faisait, ce serait la honte. On se moquerait de lui. On serait outré. On le prendrait pour quelqu'un de ne pas normal. Voilà à quoi pense Jules, et il se dit. Il faut que je réagisse, car il va être trop tard. Ou je choisis la clandestinité, ou je me marie. Comme se cacher constamment, ce n'est pas une vie, il décide de se marier. Je vais trouver une gentille et jolie femme de la société. Même si je ne l'aime pas, je la respecterai. Je ferai des enfants, elle sera heureuse. Et moi, serai-je heureux? Ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'était quelqu'un, un homme, un monsieur. Le bonheur, ça ne sert à rien, ou qu'à souffrir. On est amoureux d'une personne, et dès qu'on est amoureux, l'on souffre. L'amour, ce n'est pas la joie. La preuve avec Sylvain, depuis que je le connais, je ne fais que de souffrir à cause de lui. La passion, c'est bon lorsque l'on est jeune, mais dans la vie, rien ne vaut une bonne place dans la société, une bonne situation et avoir l'air heureux, rangé. Et pour prouver que l'on aime sa femme, lui faire un enfant de temps en temps. Bien entendu, la société accepte qu'après un certain temps, l'on ait une maîtresse. C'est même bon ton, et cela prouve que l'on est encore vert et peut plaire. Mais surtout pas un petit ami, car là ce serait un scandale. On plaindrait la femme et les enfants. On serait rejeté comme un criminel. Oui, moi. Mais pour moi, le mariage, le travail, les enfants, cette réussite dans la société, c'est pas le bonheur, mais de l'orgueil. Les gens ne sont pas heureux, mais orgueilleux. Et sans l'orgueil, ils ne chercheraient pas à se faire un nom dans la société et être comme tout le monde. Jules se dit bien tout ça, mais il se dit que les choses étant ainsi, que lui aussi va faire comme les autres, sûrement par orgueil, en sacrifiant l'amour. Un après-midi où il fait particulièrement chaud, c'est le début de l'été, le ciel est bleu, la Saône a la même couleur que le ciel mais avec des reflets d'argent comme la mer. Les gens marchent nonchalamment. Ils semblent ne pas avoir envie de rentrer chez eux ou aller à leur travail. Jules marche aussi. Il a envie de douceur, d'oublier ses peines et que quelque chose le distrait. Une jeune fille, en sortant d'une boutique avec des cartons pleins la main, le bouscule et fait tomber ses cartons à terre. Elle dit « Zut !» Elle se baisse pour les ramasser. Jules aussi. « Vous permettez ?» Une fois qu'ils ont ramassé les cartons, que Jules a gardés à la main, il lui demande « Vous allez où avec ça ?»« Chez ma mère. C'est une de ses commandes. Elle ne pouvait pas y aller chercher. Alors comme personne ne pouvait y aller, je vais y aller avec mon frère, mais il n'a pas pu venir, ce qui fait que je me trouve avec tout ça. » Jules regarde bien la jeune fille. Elle est grande, mince, blonde, cheveux en chignon, des yeux bleus, le visage fin. Donc, charmante jeune fille, en robe d'été blanche. Je lui demande, vous habitez loin ? Deux rues plus loin, la rue de Brest. Je crois qu'il vaudrait mieux que vous preniez un fiacre. Jules fait signe à des flocs de s'arrêter. Malheureusement, aucun le fait. La jeune fille lui dit, tant pis, on ferait mieux de rentrer à pied. Je lui dis, je vous accompagne. Elle lui dit, merci. Se met en route. Heureusement, les cartons ne sont pas bien lourds. La jeune fille lui demande, vous êtes de Lyon ? Oui, et vous ? Moi aussi. Je me nomme Jules Beaumandin. Marie-Chante Perdry. Voilà, nous sommes arrivés. C'est un immeuble neuf, de luxe, de 5 étages. Elle lui dit, je vous remercie, monsieur. Vous entrez ? Je vais vous présenter à ma mère. Et vous prendrez le thé aussi avec nous ? Oui, je veux bien. On ne peut pas refuser une invitation d'une si jolie jeune fille. Elle lui sourit et ils entrent dans l'allée. Vorst clair, grand escalier de marbre avec tapis rouge. Il y a même l'ascenseur hydraulique. Il la suit. Elle va vers l'ascenseur. Elle lui dit, c'est au 2e étage. Ils entrent dans l'ascenseur.
Arrivés au 2e, ils sortent.
Et elle va sonner à la porte gauche. Une bonne crosse avec une bonne bouille lui a ouvert. « Bonjour Amélie, prenez les cartons du jeune homme. » La bonne s'exécute, puis elle prend ceux de Marie. Marie lui demande, « Mère est au salon ?»« Oui, madame. » L'appartement est meublé Louis XV.
Elle frappe une porte.
« Entrez. »
Ils entrent.
C'est un grand salon clair, peinture blanche, tapisserie beige pâle, meubles Louis XV. Une dame habillée de noir, cheveux châtains, un chignon, qui semble grande, mince, est assise à un fauteuil, un livre à la main.
« Oh, c'est toi, ma fille ?»«
Oui, mère, et je me suis permis, c'est de vous amener ce jeune homme qui m'a aidé lorsque j'ai fait tomber mes paquets. Il m'a raccompagné jusqu'ici. »«
Monsieur ?»«
Madame, je m'appelle Jules Beaumandin.
Je vous remercie, monsieur, d'avoir aidé ma fille.
Asseyez-vous, je vous en prie. » Et lui montre une chaise en face d'elle.
Et Marie s'assoit à côté de sa mère.
Une petite table basse se trouve entre elle et lui. La mère demande, « Vous êtes de Lyon ?»«
Oui, madame. Et à la rentrée prochaine, je serai professeur au lycée Saint-Michel. »«
C'est bien, jeune homme. Moi, mon mari est professeur de lettres au lycée du Parc.
Ma fille s'intéresse à la botanique. » Et un frère jumeau, Alexandre, lui étudiant de droit.
Je lui dis, j'ai un frère et une sœur. Mon frère aide mon père dans les affaires. Il construit des immeubles et loue des appartements. Ma sœur ne fait rien et ma mère non plus.
La mère lui dit, vous allez prendre le thé avec nous.
Je ne sais pas.
Si, pour vous remercier d'avoir aidé ma fille.
Elle sonne. Je le regarde Marie et la trouve très belle. Elle a les traits d'une finesse exquise et un maintien parfait. Elle semble douce et discrète. Il se dit qu'elle ferait une femme parfaite. Il ne la désire pas physiquement. L'aime comme un tableau, une belle œuvre d'art.
Entrez.
C'est la bonne. Elle lui dit, apportez-nous le thé. Et sûrement qu'Alexandre ne va pas tarder à venir. Une tasse pour lui aussi. Bien, madame.
La mère lui dit, vous allez faire connaissance avec mon fils.
Marie lui dit, Alexandre n'est jamais là alors. Alors peut-être que vous ne le verrez pas.
Entrez.
c'est la bonne. Elle apporte le thé qu'elle va déposer sur la table basse. Merci, vous pouvez disposer. Et la bonne se retire. Et la mère fait le service.
La mère demande à Jules.
Lait, sucre, citron, 2 doigts de lait, merci.
Et ils boivent leur thé. On a frappé à la porte.
Entrez.
Jules voit entrer un jeune homme qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à Marie. Mais parce qu'il est un homme, cela le rend encore plus beau. Il ressemble à Marie, mais n'a rien d'efféminé. C'est un beau jeune homme, blond, cendré. Jules est ébloui par lui. Le jeune homme s'avance vers eux. Jules se lève. La mère dit au jeune homme :
Alexandre, je te présente Monsieur Jules Beaumandin. Ce jeune homme a aidé ta sœur a porté des paquets. Alors j'ai invité à prendre le thé.
Ils se salient tous deux. Et le jeune homme va s'asseoir à côté de sa sœur. Jules les regarde tous deux et se dit qu'on ne peut pas aimer l'un sans aimer l'autre. Ce sont 2 copies conformes. Jules demande :
Vous jouez au tennis ?
Marie lui répond :
Oui, un peu, mais nous ne sommes pas très forts.
Jules lui dit : Moi non plus, mais c'est un jeu amusant. Et mon père a aménagé dans un coin du parc un terrain.
Je joue avec mon frère et ma sœur. Mais avec vous, ce sera plus intéressant. Nous pourrions faire 2 équipes de 2.
Marie ne semble pas emballée.
Ma mère lui dit :
Pourquoi pas ? Cela vous permettra de vous distraire avec de nouveaux amis.
Marie dit à Jules : Bon, d'accord.
Jules lui dit :
Merci, mademoiselle, cela me fait énormément plaisir.
Il regarde Alexandre et lui demande : Et vous, monsieur ?
Puisque ma sœur y va, je viendrai.
Jules est heureux. Il a récupéré les perles de la couronne.
Il leur dit : Alors jeudi prochain, 14h chez moi.
Il sort sa carte et la donne à la jeune fille qui lui dit :
Nous y serons.
Jules est heureux. Il regarde sa montre et dit :
Malheureusement, je vais être obligé de vous quitter.
Il se lève, les autres aussi.
La mère lui dit :
Nous sommes heureux d'avoir fait votre connaissance, monsieur.
Moi aussi, madame.
Et tous le raccompagnent jusqu'à la sortie.
Sur le chemin qui le ramène chez ses parents, il est heureux. Quel gens charmants. Et puis la jeune fille est délicieuse.
Ce serait
bien pour moi. Peut-être une chance que le destin me donne et que je dois la prendre.
Une nouvelle vie va commencer. J'aurai une femme, une belle femme. Gentille et douce, mon Dieu.
Malheureusement, malgré lui, il ne peut s'empêcher de voir juxtaposer le frère et la sœur. Malgré lui aussi, il ne peut les différencier. Mais sûrement que dans la nudité, il préférerait le corps du garçon mince et lisse à celui de la fille avec ses gentilles rondeurs de jeune fille. Mais de cela, il veut passer outre. De toute façon, la fille ressemble au frère de visage, de cheveux, de peau. Lorsqu'il l'embrassera, il embrassera le frère. Lorsqu'il lui fera l'amour, il oubliera et croira que ce sera avec l'autre. Mais ne s'en rendra pas compte, car il le fera avec fougue, en croyant avoir le frère. Arrivé chez ses parents, il va dire à sa mère qu'il a invité le frère et la sœur. Il retrouve sa mère assise au salon.
Tu fais entrer chez nous des gens que nous ne connaissons pas.
Pour une fois que j'invite une personne, je ne l'ai jamais fait. Et puis ce sont des gens très bien. Le père est professeur. Le fils fait des études de droit et ils sont très bien logés. Et puis, je ne les ai invités que pour une partie de tennis.
Très bien, tu t'arrangeras avec ton père.
Jules a prévenu son frère et sa sœur et leur a dit de faire bonne mine. Le jeudi arrive. Le terrain de tennis a été nettoyé. La mère a fait apporter sur un tréteau des rafraîchissements et quelques amuse-gueules et en plus des serviettes pour s'éponger. Jules et Apolline, Charles-André sont prêts. À 14h05, on a sonné au portail. C'est eux, tout habillés de blanc. Ils arrivent vers la maison. On les fait entrer au salon où Jules leur présente ses parents, son frère et sa sœur. Jules les trouve très beaux. Il se dit qu'on dirait des anges. Sa sœur est surprise. Elle ne savait pas que c'était deux jumeaux. Et ils vont jouer. Jules joue avec Marie. Apolline avec Alexandre. Charles-André, qui ne sait pas jouer, compte les points. Il joue agréablement et gentiment. Après 2 heures de jeu, ils se sont rafraîchis. Jules est aux petits soins pour Marie. Il la serre, il donne une serviette pour qu'elle s'éponge. Mais, tout en faisant cela, il jette un coup d'œil au frère. Il trouve qu'il a un corps parfait. Après avoir parlé de choses et d'autres, ils sont partis à 19h en promettant de revenir. Apolline a vu que Marie disait cela sans entrain. Une fois qu'ils sont partis, Apolline et Jules sont assis au salon, l'un en face de l'autre. Jules lui demande « Comment la trouves-tu ? » Apolline lui dit: ce sont de beaux jumeaux, mais je crains pour toi. Ne risques-tu pas de vouloir l'une pour avoir l'autre. Radio Canut vous a présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Les délires de la sublimation, dont c'était la 37e partie. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP.
La CVRP Cinéma Vidéo Radio Production vous a présenté une cassette OB.
Canut.
La radio utile.